Pour ce Radio Barque numéro 24, comme je l'indiquais en début de première partie, nous avons aujourd'hui Marie Bardet, romancière, et Sandy, alors Kersi Lafont de son nom d'épouse, qui est une Vietnamienne qui a été adoptée dans son enfance et qui est devenue narbonnaise, française narbonnaise. Et on va revenir un petit peu plus tard sur son expérience personnelle, mais nous sommes dans un roman écrit par Marie Bardet. Peut-être pourriez-vous justement, roman aux éditions donc Emmanuel Colas, peut-être pourriez-vous nous en lire un extrait de ce roman, puisque c'est quand même ce qui fait que vous êtes là toutes les deux.
Mais avec plaisir. L'asphalte qui allait en s'amincissant a maintenant complètement disparu. La route sableuse crisse sous les pneus de la Honda. Elle se soulève en son milieu puis s'affaisse, environnée d'une poussière ocre. L'itinéraire permet de contourner Ho Chi Minh-ville et son trafic démentiel. Les voyageurs en sont quittes pour épouser les méandres de la rivière. Un pont, à ce qu'il paraît, permet un peu plus loin son franchissement. En contrebas de la route, des rizières miroitent, partagées par des rigoles, survolées par des compagnies de grues. Un buffle, à un an, pointe son museau par-dessus le talus. Plus loin s'étendent des champs vibrants de chaleur, émaillés çà et là d'arbres échevelés, de silos. Puis la route longe une haie de canne, haute comme les murs d'un temple, et se perd parmi des herbes dures, tranchantes comme du silex. Elle descend alors dans le sable, entraînant la moto dans de traîtresses embardées, puis monte, rocailleuse, et finit par pénétrer dans un hameau. La route longe des maisons basses, des jardins, des enclos avec des poules ou des cochons et se fond dans un taillis. Derrière l'écran écailleux des troncs, des stèles blanchies à la chaux se dressent en mémoire des défunts. La route sinue parmi les tombes. Il apparaît bientôt que chaque maison possède son bout de cimetière, établi près d'un hôtel des ancêtres, à moins que ce ne soit l'inverse. Et ses taches blanches se détachent presque gaiement sur le vert foncé de la végétation. La route bordée de palmiers renfle pour enjamber un ruisseau. Après 1000 cassures d'ombre, elle reprend souffle à proximité d'une briqueterie et projette enfin sur le courant paresseux de la rivière, eau grise et lourde, odeur de boue, son pont aux rambardes pourries. Passé le pont, la route s'interrompt. Plus rien ici n'avance, sinon la poussière ocre qu'on voit trembler dans le soleil. Un enfant suce un bâtonnet, une femme en jogging rose enfourne des cannes dans une broyeuse. Elle fait signe aux voyageurs, attrape une orange, la presse dans la machine. Pas mécontent de se dégourdir les jambes, le trio met pied à terre, May ôte son casque, cheveux qui ruissellent, mèche plaquée sur son front, la Honda stationne à l'ombre d'un parasol, bagage ficelé contre ses flancs.
Donc ça, c'est le voyage accompli par l'héroïne May de votre roman, Marie Bardet. Mais on va trouver tout à l'heure un correspondant réel, celui qu'a vécu Sandy Kersi, justement. Alors c'est là, juste à partir de votre roman, où les choses sortent un peu de l'ordinaire, c'est que vous écrivez ce roman tel qu'on l'a écrit, sur le thème qu'on a écrit, puis à un moment vous vous dites « mais j'écris sur... enfin, c'est une fiction mais basée sur la réalité, peut-être qu'il y a encore des gens qui, eux, sont issus et qui vivent, qui sont issus de ce... ben, notamment de ce crash ».
Oui,
alors racontez-nous cette invraisemblable rencontre.
Tu veux commencer, Sandy ?
Non, vas-y, vas-y.
Non, effectivement, j'avais déjà posé les personnages, l'intrigue, j'avais écrit vraiment la majeure partie du roman, toute la partie qui se passe en France, et je m'apprêtais à partir au Vietnam. Et à ce moment-là, comme justement j'étais vraiment déjà bien installée dans ma fiction, que je savais que je ne serais pas influencée ou perturbée par des témoignages extérieurs, ça a été pour moi le bon moment de rechercher des témoins. Je me doutais qu'il y avait des témoins, mais je pensais qu'ils étaient tous aux États-Unis, et je pensais qu'il y en avait peu, j'avais peu de chance en tout cas d'en retrouver qui auraient réchappé de l'accident d'avion, puisqu'il a quand même été absolument terrible. Et lorsque j'ai posté un petit message sur un groupe Facebook américain, donc en anglais, je m'attendais peut-être à avoir des retours, mais pas le retour de Sandy. Le retour de Sandy, il était extraordinaire, parce que non seulement elle a été adoptée en France, et je cherchais effectivement des témoins qui auraient été élevés en France, mais en plus, elle était présente dans ce premier avion sur lequel mon roman s'ouvre.
Ce qui était... Et en plus, elle est à Narbonne.
Extraordinaire. Et en plus, elle était à Narbonne, alors là, j'avoue que bon, ça dépassait tout. Je me suis dit, voilà, c'est un signe.
Oui, parce que ce qu'il faut préciser, justement, c'est que ces enfants ne sont pas tous restés aux États-Unis. Alors, il faut préciser aussi, vous avez rappelé combien les Américains ont essayé de tirer gloire de tout ça, mais la France elle-même, qui était la puissance coloniale jusque dans les années 1950, après, jusqu'à la défaite de Dien Bien Phu, dans les années 54-55, par là, apparemment, il y a eu aussi, déjà à l'époque, des retours en France même, il n'y avait pas les États-Unis dans la partie, là, dans les circonstances un petit peu semblables.
Oui, oui, ça a été documenté notamment par Yves de Necher, qui a publié...
un historien.
Un historien de l'adoption internationale, enfin, un historien spécialiste de l'enfance et de la famille, qui a fait un gros travail justement sur le rapatriement, enfin pas le rapatriement, il faut vraiment oublier ce mot, parce que ces enfants sont nés au Vietnam, et ils étaient donc supposés être enfants de pères soldats français. Et donc en 1954, à la chute de Dien Bien Phu, à la victoire du Viet Minh, 3000 enfants ont été de force déplacés en France, où ils ont été coupés de leur famille vietnamienne, donc de leur mère, à qui on n'a pas demandé son avis. On les a privés de tout contact et on a vraiment cassé leur culture. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de parler leur langue. On leur a enlevé leurs jouets, leurs photos de famille, leurs vêtements. Et on les a éduqués en bon français, blanc, occidentaux, en éradiquant absolument toute trace de culture vietnamienne. Ça a été documenté, et c'est une histoire...
Oui, donc pas plus glorieux que l'épisode américain.
Exactement, qui d'une certaine façon fait écho à cet épisode déplorable de notre histoire hexagonale.
Oui, donc un certain nombre se retrouvent en France, la preuve, Sandy Kersi est là. Alors Kersi, c'est le nom de vos parents adoptifs, Sandy?
Oui, mes parents donc sont de Narbonne, hein, donc vu que c'est une adoption plénière, mais forcément vous prenez le nom de vos parents adoptifs. Donc c'est pour ça que je m'appelle Kersi, et la France est mon nom d'épouse.
Alors j'aimerais revenir quand même sur la rencontre, parce que j'aimerais savoir le ressenti de l'une et l'autre, tellement c'était invraisemblable. Comment, quand vous rencontrez Marie Bardet, romancière que vous connaissez maintenant, quel est votre ressenti par rapport à tous vos antécédents, votre jeunesse et le vécu?
Ben, disons que, enfin, c'était, enfin voilà, je suis pas mal sur les réseaux sociaux, parce que justement il y a beaucoup de groupes autour de l'adoption, la voix des adoptés, enfin il y a beaucoup de groupes, et je suis tombée ben, par hasard, hein, sur la petite annonce de Marie, donc je connaissais absolument pas. Alors pourquoi cette annonce, elle m'a interpellée, franchement je sais pas, enfin je me suis dit tiens, mais donc j'ai envoyé un message de suite, en fait. Je lui dis, mais je crois que je lui ai demandé ce qu'elle cherchait, en fait, parce que en fait elle parlait pas forcément de l'accident d'avion, tout ça, enfin c'était assez global. Donc du coup, bon voilà, je dis bonjour, je m'appelle Sandy, je viens de voir votre poste, j'aimerais savoir ce que vous cherchez exactement.
Au démarrage, vous prenez ça au sérieux, parce que sur Internet, on trouve de tout aussi.
Ah, ben c'était quand même, enfin, la façon dont c'était écrit, tout ça, on voyait quand même que c'était
sérieux.
Voilà, c'était sérieux et que. Et puis c'est vrai que du coup j'ai consulté un peu son profil et j'ai vu qu'en plus elle était à Narbonne et moi je venais juste de me réinstaller sur Narbonne, donc j'ai dit tiens, c'est quand même étrange qu'elle soit concernée à la même ville. Puis enfin, je venais vraiment d'aménager, donc ça faisait une semaine, j'étais encore dans mes cartons.
Ah oui, vous redeveniez narbonnaise.
C'est ça, oui, parce que moi je suis restée donc sur Narbonne jusqu'au bac, jusqu'à 17 ans, et puis après voilà, je suis partie un petit peu partout, et là c'était le grand retour aux sources pour moi. Et donc je tombe sur publication de Marie, Narbonne, donc voilà, je l'ai contactée rapidement, donc elle m'a répondu le lendemain matin je crois, et puis on a échangé. Et puis quand je lui dis ben, que ça me parlait du baby lift, je dis ben oui, je connais bien, parce que j'étais donc voilà, donc il y a eu un petit moment de silence, donc je me suis dit bon, elle doit penser que que je raconte des histoires ou quoi, parce que c'est vrai que c'était tellement improbable, en fait, que bon, ben, je pense qu'il y a eu un doute quand même à un moment donné.
Il a fallu du temps pour que la mayonnaise prenne.
Ben disons que il y avait tellement peu de chances, en fait, de se rencontrer,
oui,
là
absolument,
sur Narbonne, que c'est vrai que ça a été...
Oui, c'est hautement improbable, pour dire le moins. Et vous, Marie Bardet, comment ressentez-vous cette trouvaille en quelque sorte.
Alors moi, je me souviendrai toujours d'être arrivée à Saint-Marcel-sur-Aude, dans cette maison où Sandy, son mari, ses enfants se sont réinstallés dernièrement, et au milieu des cartons, ce jour-là, donc... Son mari n'était pas là, on était toutes les deux, il y avait son beau-père, je crois, qui est passé.
Oui.
Et je m'en souviendrai toujours parce qu'il y avait donc cette toile cirée sur la table, les cartons, enfin voilà, elle venait à peine de se poser. Et elle est allée chercher son dossier, en fait, son dossier. Puisque tout adopté, le gros problème de l'adopté, c'est ça, c'est est-ce que j'ai un dossier, qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier, est-ce qu'il y a des pièces manquantes, est-ce que, voilà. Et donc le dossier d'adopté, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant pour une personne extérieure comme moi, qui n'ait pas été confrontée à cette problématique, qui l'ait été pour la première fois, et quelque part, elle est allée sur la table devant moi, sa vie, enfin sa vie, et surtout les trous de sa vie, les manques dans son existence. Et c'était pour moi extrêmement bouleversant de voir que son enfance, sa naissance, sa famille, tout ça, il n'en restait que ces bouts de papier froissés, chiffonnés, ces photos floues, voilà, qu'elle mettait sur la table devant moi. Donc moi, j'ai eu le sentiment qu'elle se mettait d'une certaine façon à nu devant moi, donc c'était extrêmement bouleversant pour
oui,
moi.
Oui, vous pénétriez dans une partie de son intimité.
Oui, j'en ai ressenti une énorme responsabilité. C'était vraiment quelque chose de très, tout à fait saisissant, et j'ai bien compris rétrospectivement pourquoi je n'avais pas fait cette démarche plus tôt. Parce que je suis une personne extrêmement sensible et que voilà, j'avais vraiment déjà à aboutir un roman. C'est déjà un travail littéraire, c'est déjà un travail puissant, engageant. Et la rencontre avec Sandy a été aussi extrêmement forte. Donc c'était un moment dont je me souviendrai vraiment toute ma vie.
Non, mais on peut le croire, effectivement. On marque une seconde pause, Marie Bardet et Sandy Quercy, et on se retrouve pour une troisième partie. Alors on va se pencher un peu plus sur votre enfance et votre jeunesse et votre vie. Anne Arbonne, Sandy, alors Quercy Lafont.